l'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Quand je suis arrivé à CKAC, c'est le premier que j'ai rencontré parce qu'il faisait l'émission de nuit au complet. Actuellement, c'est l'animateur de Fabie la nuit qui est présenté sur le 98.5, mais sur l'ensemble du réseau, de minuit à 3 heures. Et puis, il nous a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Après quoi, 45 ans de micro. Jacques, bonjour.
Salut Paul, comment vas-tu?
Ben, très bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que tu finis à 3 heures, puis donc j'arrive un peu plus tard. Fait que...
Ben oui, il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps, on se voyait à tous les matins. Moi, je voyais Paul Arcand arriver de bonne humeur à tous les matins vers 4h15, 4h30. Puis là, ben, j'ai décidé à un moment donné d'en faire un petit peu moins. Là. Alors, je suis content de te parler. Là.
Ben moi aussi, je suis très content. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a... Parce que c'est sûr que tu y pensais, là, mais qu'est-ce qui fait que tu dis, là, je suis rendu vraiment, vraiment à passer à la retraite?
Ben, c'est assez simple, Paul, c'est l'âge. Je suis rendu, je vais te dire, oui, j'ai 69 ans. Alors, puis ça fait 45 ans que je travaille la nuit. C'est pas, je me plains pas du fait que j'ai travaillé la nuit, mais physiquement parlant, c'est pas non plus toujours évident. Ça demande quand même des sacrifices. Alors, à 69 ans, puis je regarde, Paul, tu sais très bien, il me semble qu'il y a eu beaucoup de décès depuis un certain temps. Puis c'est souvent des gens de 70 à 75 ans. Alors, tu regardes ça, puis tu te dis, bon, ben garde, il me reste encore probablement quelques bonnes années. Alors, je peux te dire que là, au moins, j'ai pensé à moi. Je me suis dit, à 69 ans, après 45 ans, je pense que j'ai envie de faire autre chose, tout simplement. Là. Mais je peux te dire, par exemple, que j'ai vraiment le sens du timing, parce que je suis pas sûr que c'est le meilleur moment de prendre sa retraite. L'essence a un prix record. L'inflation, c'est du jamais vu en 30 ans. Nos placements fondent comme neige au soleil.
Vas-tu faire une coupe de bois de plus?
J'ai pris la bonne décision.
mais normalement, je dis bien normalement, quand on prépare sa retraite, on se prend un petit peu d'avance pour pas se retrouver après 2-3 semaines, 2 mois de vacances en disant « Ouais, c'est vrai que là, je suis à la retraite. » As-tu planifié des choses? As-tu envie de faire des trucs, de voyager, de je sais pas?
Oui, bien ça, j'ai envie de voyager. Évidemment, ben tu sais, hein, ma conjointe travaille dans le domaine des voyages. Alors, j'ai la possibilité de voyager. Probablement, c'est ce que je vais faire aussi. Mais là, je prends ma retraite. En fait, je pars en vacances le 17 juin. Je pense que pour partir en vacances, d'après moi, l'été, c'est le meilleur moment, là, parce qu'on est plus actif l'été, on fait davantage d'activités. Alors, autrement dit, je pars en vacances le 17 juin. La seule différence, c'est que je reviens pas au mois d'août. Mais alors, je pense que l'été, pour moi, ça va être plus facile de partir en vacances parce que j'ai beaucoup d'activités. J'aime ça jouer au golf de temps en temps. J'aime ça voyager. Bon, je vais dans le canton de l'Est, puis tout ça. Mais après ça, est-ce que j'ai planifié ma retraite à ce point-là? Pas vraiment. Je vais prendre ça comme ça vient, honnêtement. Là.
Parle-moi un peu du parcours. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé derrière un micro la nuit?
Ben, c'est là, je te ramène à plusieurs années en arrière, en 1977. Tu te souviens qu'à l'époque, c'est Claude Saussier qui était l'animateur du Grand Express la nuit. À un moment donné, Claude a eu une offre pour travailler, je pense, à l'époque, on appelait ça Radio-Québec ou Télé-Québec, je sais pas trop. Alors, là, il cherchait assez rapidement un animateur pour remplacer Paul. Moi, en 77, j'étais à Sherbrooke, j'étudiais à temps partiel à l'université, puis je travaillais à CHLT. Alors, je pense qu'ils ont fait le tour du réseau, puis bon, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Je peux te dire que les choses se sont faites rapidement parce que ils m'ont téléphoné. Une semaine après, j'étais au coin Metcalfe et Sainte-Catherine pour passer l'audition. Et le lundi suivant, j'ai commencé, j'ai signé un contrat d'un an. Puis ça ne s'est pas arrêté depuis ce temps-là.
D'ailleurs,
mon premier contrat, c'était 350$ par semaine. ça n'a pas beaucoup changé.
Non, tu t'en souviens solidement de ça. Est-ce que tu te souviens de la première émission?
Ah oui, je m'en souviens, oui, très bien.
Raconte-nous ça.
Ah ben d'abord, évidemment, c'était très différent. Il y avait davantage de musique. On n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui pour travailler. Je me souviens des fils de presse et tout ça, là. Mais essentiellement, la nuit, à l'époque, c'était plus musical. Je dirais que c'était plus une radio d'ambiance. Alors, il y avait de la musique, je faisais des petits commentaires de temps en temps, mais pas vraiment des commentaires d'opinion, là, souvent des nouvelles insolites, puis bon, tout ça. Alors, c'était très différent à l'époque, mais ce que je me souviens surtout, c'est quand Jacques Proulx est arrivé en studio le matin, à peu près à l'heure où tu arrives tous les matins, puis aujourd'hui, les studios sont séparés, mais c'était pas le cas à l'époque. Alors, moi, j'avais beaucoup entendu parler de Jacques Proulx. Là, Jacques s'installe devant moi, devant la console, puis là, il me reste à peu près une heure à faire. Je peux dire que ça, j'ai trouvé ça assez difficile. Il me regardait, puis il me regardait pas, il m'écoutait pas, je sais pas trop, mais ça s'est assez bien passé. Mais j'étais vraiment impressionné la première nuit de me retrouver face à face avec, avec Jacques. Ouais.
À quel moment le virage s'est fait avec les appels téléphoniques et un peu plus donc de radio parlée puis de radio d'opinion?
Ben, je peux pas te dire honnêtement, là, ça fait tellement longtemps, ça fait, oh, je sais pas honnêtement, mais à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est bien beau de la musique et tout ça, là, mais puis je pense que les gens la nuit aussi ont envie de s'exprimer, ont envie de parler. Alors, j'ai envie de te dire que ça s'est fait spontanément au fil des ans, à un moment donné, c'est devenu, puis comme on travaille dans une radio parlée, ben c'était normal que même la nuit, parce que moi, je me suis toujours dit, la nuit, là, j'essaie de faire un peu comme le jour, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes moyens, mais j'essaie de. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'actualité. Alors, quand il y a de l'actualité, je suis le gars le plus heureux, parce que quand il n'y a pas d'actualité, puis que tu animes une tribune téléphonique, là, ça peut devenir dangereux. Parce que moi, je demande aux gens qui m'appellent, « Bon, de quoi allez-vous me parler? » Alors, quand il se passe pas grand-chose, puis les gens me disent, « Ben là, je sais pas vraiment, gardez-moi en ligne, puis on verra. » Dans ce sens-là, je me méfie un peu.
Avec raison, mais... Tu as développé ce qu'on appelle les abonnés de tribunes téléphoniques, des gens là, qui se connaissent, même s'ils se sont jamais vus. J'ai vu l'émission sur les auditeurs de nuit. Ouais. C'est un service essentiel que tu rends à du monde là, qui sont seuls, des gens qui sont pauvres, sont malades, ils vivent... Bon. Si t'es pas là, là...
Ben, regarde, ben, t'as raison, Paul. Moi, essentiellement, je fais de la radio d'abord, et c'est normal, d'abord et avant tout, pour les gens qui écoutent la nuit. Puis, je suis parfaitement conscient que la nuit, il y a des gens qui travaillent seuls dans leur coin. Tu sais, quand l'agent de sécurité, là, qui est tout seul pendant 12 heures de temps, là, puis qu'il m'entend le saluer, puis parler de lui, puis parler du travail qu'il fait, ben il est bien content. Dans le fond, la nuit, c'est une présence. Alors, je suis conscient de ça, qu'il y a d'abord des gens qui travaillent seuls dans leur coin, il y a des gens qui dorment pas la nuit, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui, bon... parce que je reçois beaucoup de témoignages. Tu sais, des fois, je veux pas me surestimer, me sous-estimer, mais souvent, dans les témoignages, des fois, je suis étonné. Les gens m'écrivent pour me dire « Vous m'avez fait tellement de bien, là, que j'ai passé des moments difficiles dans ma vie. Je ne dormais pas. Alors, je vous écoutais, m'avez fait rire, m'avez informé, vous m'avez diverti. Ben, ça leur a fait du bien. Puis ça, ben, quand ça arrive, je me dis, bon, ben, finalement, mon travail, je dis pas que c'est un travail essentiel à ce point-là, mais je me dis, au moins, j'aurais fait mon travail. On est là pour ça, c'est pour rassurer les gens. Alors, la nuit, c'est souvent, c'est pas sorcier, mais c'est souvent la présence.
Mais surtout, parce que on l'a vécu ensemble pendant une certaine période, quand il y a des moments importants dans l'actualité. Tu sais, je peux penser, par exemple, quand... puis des sujets qui parfois divisent, un référendum. Toi, là, tu prends l'antenne après que le résultat est connu, puis là, les gens sont dans un état d'esprit. Quand René Lévesque est mort, c'est un dimanche soir.
Ah oui.
Tu sais, tu prends l'antenne après, puis je sais pas, il y a une présence la nuit qui est différente pour moi du jour. C'est-à-dire que les gens vivent avec les vagues qui suivent des grands événements.
Ben, c'est sûr, Paul, c'est très émotif aussi. Quand ça vient d'arriver, là, tu me donnes l'exemple de la mort de René Lévesque. Mais j'en parle pas souvent, mais la mort de Jean Béliveau, par exemple.
Ouais.
Ça, là, c'est arrivé, on a appris la nouvelle, mais je me souviens, à l'époque, c'était Ron Fournier, évidemment, qui était là le soir. Ron apprend à 23h45, il était presque sur son départ, il apprend la mort de Jean Béliveau. Alors, on a beaucoup parlé de Guy Lafleur et tout ça, mais Jean Béliveau aussi était très apprécié des gens. À 23h45, pardon, là, ça a été le branle-bas de combat. Ron est resté avec moi jusqu'à peut-être 2h du matin. Et, bon, avec ses contacts, évidemment, on a parlé à plusieurs anciens joueurs de hockey. Mais c'était aussi très émotif. Autant la mort de René Lévesque, les gens téléphonaient, ça pleurait en ondes, là. J'avais rarement vu ça, là. Mais dans le cas de Jean Béliveau, c'est un peu la même chose, là.
Oui, puis mais c'est vrai que tu prends le micro quand la journée se termine, que la nuit commence, puis quand il y a des débats, parce que tu en as eu des débats sur à ton émission.
Bien sûr, la crise autochtone, la crise du verglas, la pandémie, évidemment. Si tu me poses la question, qu'est-ce que j'ai le moins aimé?
Ouais.
Bon, je te dirais que la pandémie, ça a été bien particulier parce que, tu sais, on a reçu toutes sortes de courriels, puis la pandémie, il n'y avait pas pour plusieurs, il n'y avait pas vraiment de nuance. C'est-à-dire, c'était noir ou c'était blanc. Alors, les gens étaient durs dans leurs commentaires. Moi, j'ai reçu des courriels à un moment donné, c'était d'une vulgarité, pas de bon sens, là. Puis des menaces aussi, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec eux, là. Mais, autrement dit, c'était impossible de jaser avec ces gens-là. c'est carrément impossible. Il voulait pas, il voulait rien comprendre, rien savoir. Alors ça, la pandémie, je trouvais ça très difficile, tellement qu'à un moment donné, j'ai demandé de ne plus recevoir de courriel. Ça ne m'intéressait plus.
Ben, c'est parce que on est, toi et moi, d'une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas.
Ben, c'est ça, exactement.
Puis, tu sais, dans la vie, on n'est pas obligé de recevoir des insultes, là. On comprend que les gens ont le droit à leurs opinions, mais il y a une façon de les exprimer, puis...
c'est ça, exactement. Quand ça devient vulgaire, puis tout ça, à un moment donné, tu te dis, pourquoi moi je devrais accepter ça? Alors, j'ai lâché prise, je me suis dit, ça vaut pas la peine, parce que comme je te dis, il n'y avait pas de nuance, ces gens-là, c'était carrément impossible de discuter, alors moi, je faisais ce que j'avais à faire, puis j'ai remarqué une chose aussi, Paul, puis là, tu l'as peut-être remarqué aussi, mais dans l'actualité, souvent, là, quand on en parle pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, là, automatiquement, on reçoit des commentaires, ben on commence cette année d'entendre parler de ça. Alors aujourd'hui, là, il faut passer à autre chose assez rapidement. Mais dans le cas de la pandémie, ça fait au-delà de 2 ans que ça dure.
Ben oui.
Moi, je leur disais, je suis pas ici pour vous donner des recettes de tarte au sucre, là. Je suis ici pour vous donner les dernières nouvelles sur la pandémie, dans le sens qu'à un moment donné, c'est comme un incontournable. Je peux pas passer à côté, là.
Mais t'as appris à la dure qu'il fallait écouter ce que le monde disait en onde pour pas te faire prendre.
Oui. Oui, ça oui.
Parce qu'il y a un auditeur, une auditrice, si mon souvenir est bon, là, qui est allée tenir des propos antisémites, puis toi, t'étais distrait, t'es pas entendu, puis bang, ça t'a volé d'en face.
Oui, mais ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, puis je me suis excusé à plusieurs reprises aussi. Mais à un moment donné, tu viens tanner de t'excuser, là. C'est pour ça qu'à un moment donné, je demandais à la direction, bon, ben, suspendez-moi pendant un mois, puis on passera à autre chose. Mais c'est vrai que, encore, je peux les réexpliquer aujourd'hui. Quand cette auditrice-là parlait, j'étais malheureusement sur une autre ligne.
Mais c'est ça, mais ça fait partie de la technique, comme on veut, pour faire
les... C'est la radio en direct, en fait.
Ah non, c'est sûr,
j'ai pas de metteur en onde, j'ai pas personne pour répondre à mes appels. Absolument. Alors, surtout, j'ai été distrait, puis c'est rare que ça m'arrive, puis malheureusement, ben, je suis mal tombé cette journée-là. Mais je me souviens que, bon, là, je suis parti pendant un mois, puis avant, en plus, les vacances du temps des fêtes. Alors, je suis revenu, mettons, le 7 ou le 8 janvier suivant. Et évidemment, la direction m'a téléphoné juste avant, une semaine avant, pour me dire « Là, survient en onde, là, fais bien attention, parce que il y a bien des gens qui vont t'en parler. » Ben, imagine-toi que quand je suis revenu en onde, il n'y a pas personne qui m'en a parlé. Je n'ai reçu aucun appel là-dessus, et je n'ai reçu aucun courriel non plus. Je pense que les gens ont compris. À un moment donné, ils se sont dit « Bon, mais garde, c'est pas de sa faute. » Puis les gens qui me connaissent savent très bien que c'est pas ça que je pensais. Puis le pire, c'est que cette nuit-là, après l'intervention de cette auditrice, peut-être 2 minutes après, j'ai dit en onde « Adolf Hitler est probablement le pire individu est le pire individu sur la Terre. » Mais ça, personne n'en a parlé, par exemple.
As-tu...
Ça m'a choqué un peu.
T'as raison. As-tu l'impression que tu vas t'ennuyer?
Non, je pense pas, Paul. Parce que, comme je te dis, ça fait 45 ans. Puis, à un moment donné, non, honnêtement, j'ai envie de passer à autre chose. C'est sûr que des fois, on commente l'actualité. Alors, je suis certain que des fois, je vais être chez nous, probablement. Puis là, je vais entendre quelque chose. Il va se passer un événement. Là, probablement que je vais me dire, maudit que j'aimerais être en onde ce soir. Pour pouvoir en parler, pouvoir le commenter.
Ben, t'appelleras.
Oui, bien, c'est ça, exactement. Mais après 45 ans, je pense que j'ai fait le tour du jardin, puis je suis assez fier du travail que j'ai fait. C'est sûr que la nuit, c'est pas, j'appelle pas ça une grande carrière, mais...
Là, je sais que tu as tout le temps dit ça, puis je trouve que tu as tort, puis je vais me permettre de te le dire, parce que, une présence la nuit, puis j'insiste là-dessus, là, ça a un rôle social majeur auprès de, comme tu dis, les gens qui travaillent, des gens qui sont seuls, des gens qui sont malades, des gens qui... Et le niveau, le pourcentage, en fait, de gens qui vivent seuls est en constante augmentation. Puis combien de fois, quand je prends l'antenne à 5h30, là, j'ai des auditeurs de Jacques Fabi, des auditrices qui m'écrivaient en disant, voulez-vous dire à M. Fabi telle affaire? M. Fabi nous a permis de... M. Fabi nous a permis de nous exprimer sur... Ce que je veux dire, je pense que tu as joué un rôle majeur. Faudrait pas que tu te sous-estimes, mais tu as maudit réflexe à faire ça.
T'as raison. Avec les témoignages que j'ai reçus, je me souviens, une fois, j'ai été mis à pied aussi par Corus pour des questions financières.
Oui, c'était pas une bonne idée, ça, de leur part, hein?
Comment?
C'était pas une bonne idée de leur part. Ça avait pas mal, comme on dit, fait de la vague.
Ils ont reçu je sais pas combien de courriels, puis bon, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs changé d'idée. Je suis revenu assez rapidement. Non, je suis conscient de ça, Paul, évidemment, parce que j'en reçois des témoignages, puis comme je te disais tout à l'heure, des gens là, qui, bon, grâce à moi, si on peut dire, ont réussi à passer à travers des moments difficiles. Alors, comme je te dis, juste ça, là, ben je pourrais dire mission accomplie, là, tout simplement. Là.
En tout cas, le visage radiophonique change. Toi, tu vas prendre ta retraite. Notre ami Paul Oud va quitter aussi. Joël Lebigot a annoncé qu'il quittait. Puis là, je parle pas de Pierre Bruno puis de Denis Lévesque. Disons que le paysage change.
Ben, j'ai fait une blague sur mon Facebook il y a 2-3 jours. J'ai dit, avec tous les joyeux retraités, là, ceux qui s'en vont, on pourrait peut-être les convaincre de revenir et de partir une nouvelle station de radio. Là.
As-tu eu des réactions à ça?
J'ai eu beaucoup de réactions. Je pense que j'ai eu 450 messages. Les gens, une maudite bonne idée, on va vous écouter.
C'est un excellent point. Jacques, merci beaucoup. Je sais que j'imagine que je t'ai empêché d'aller te coucher à cette heure-ci, là. Ça doit être ça.
Alors, ben, moi, je termine à 3h30 normalement. Là, je suis au dodo. Puis, je suis pas quelqu'un qui dort longtemps. Puis, une raison aussi pourquoi là, ben, je trouve ça difficile, c'est que je dors souvent en deux temps. Ça, je commence cette année d'être obligé de me coucher le soir après souper, là. C'est pendant une heure et demie pour être en forme jusqu'à 3h du matin, là. Ça, c'était, pour moi, c'est un irritant, là.
Jacques, merci beaucoup d'avoir, été avec nous ce matin. Deux, de cette carrière absolument magnifique.
Ben,
trois, je t'ai croisé, ça a été un plaisir pour moi. Puis moi aussi, quand je suis rentré, tu me regardais avec une baboune. Fait que finalement, ça s'est amélioré avec le temps.
Oui, mais t'étais mon polo, alors.
C'est ça.
J'étais content de te voir tous les matins.
Moi aussi, Jacques. Alors, ben, bonne retraite. Profites-en au maximum. Puis tu demeures quand même ce qu'on appelle là une légende nocturne de la radio québécoise.
Ben, t'es bien fin, Paul. Merci beaucoup. Hein.
Merci. Jacques Fabien.
Bye-bye. Merci.
Qui va donc quitter l'antenne. 45 ans de micro la nuit, c'est quelque chose. Hey, c'est pas rien, là. Et de faire de la radio parler, comme on dit, c'est pas juste d'enchaîner les pubs puis la musique, là. C'est de développer ce contact-là avec les auditeurs, les auditrices, ces fameux abonnés de nuit qui connaissaient par leur prénom, puis des personnages dans certains cas. Alors, on va lui souhaiter une bonne retraite à partir du 17 juin, les vacances, puis après ça, la fin.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Toute une opération policière hier, 28 perquisitions Montréal-Laval, donc des services de police du Grand Montréal impliqués, pour aller faire des petites visites dans des entreprises qui fabriquent du speed, des amphétamines. Et la saisie est impressionnante, 6,5 millions de comprimés d'amphétamines, également de l'argent, des armes à feu. Francis Renaud est le commandant de la division du crime organisé au SPVM. Monsieur Renaud, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
6,5 millions de comprimés. Là. Ça, c'est une saisie record, là, j'imagine, jamais vue.
C'est jamais vu. À Montréal, c'est un record, effectivement. Dans la province aussi, là, je peux m'avancer là-dessus assez facilement. C'est un record.
OK. Je pensais pas qu'il se consommait autant d'amphétamines, de comprimés comme ça.
Nous autres non plus. Je vais être franc avec vous. Nous autres non plus. Mais je dois vous dire que l'amphétamine, c'est rendu la drogue la plus prisée. Là. Ça vient de dépasser tout récemment la cocaïne dans les statistiques de consommation ici au Québec. Là.
OK. Si vous me faites un résumé là, de l'opération, il y a combien de petits laboratoires, il y a combien de personnages à la Breaking Bad, il y a combien de personnes d'arrêtées dans tout ça?
Il y a 8 personnes arrêtées hier. On comprend qu'on est avec le bureau de lutte à la grande crime avec nos collègues du DPCP là-dedans. Puis il va y avoir une autre phase à cette enquête-là. Ça va être une phase d'arrestation. Alors, comme je me plais à dire, il y a certains individus présentement qui doivent réfléchir à leur rôle dans cette organisation-là. Hier, c'est 4 laboratoires qu'on a démantelés. 28 perquisitions dans plusieurs régions administratives, Montréal, Laval, Montérégie, Centre du Québec, Montérégie, Lanaudière, j'en passe. Là. Puis c'est 280 policiers qui ont mis la main à la porte. Fait que c'était majeur, on va appeler ça comme ça.
Et c'est quelle organisation criminelle qui est derrière ce réseau-là?
Les individus qu'on a arrêtés, l'enquête démontre que c'est des individus qui sont reliés d'assez près aux moteurs criminalisés, les Hells Angels. Okay? C'est eux qui sont rois et maîtres en matière de moteurs criminalisés ici dans la province. Là. Puis c'est relié de près aux Hells Angels. Il n'y a pas de membre en règle qui était visé hier.
OK, mais les moteurs pas mal eux qui sont derrière
oui.
les...
Oui, l'enquête le démontre clairement. Là. C'est-à-dire que ce qu'on voit normalement dans ce genre d'organisation-là, ben les gens qui... je vais prendre vos mots, là, mais nos chimistes en herbe, les gens de Breaking Bad qu'on a arrêtés hier, il faut qu'ils payent un droit de passage ou une cote à ces motards criminalisés-là pour opérer, puis pouvoir vendre, distribuer les amphétamines ici dans la région.
Quand vous dites vendre et distribuer, ça se passe où?
Ça se passe partout.
Partout.
Malheureusement, c'est partout, oui. On avait des clients partout dans la province. L'enquête nous a démontré ça. Beaucoup de renseignements hein, qui vient de cette enquête-là, qui a débuté, il faut le dire, en septembre. Puis c'est les enquêteurs de l'anti-gang, la division du crime organisé ici, là, de la police de Montréal, sont très agiles, on va dire ça comme ça, très fiers d'eux, OK? Puis ils ont réussi à démanteler ce réseau-là. Alors oui, on produit, OK? Il y avait la production d'amphétamines qui est la matière, le produit fini, il faut qu'on se le dise, là, c'est des produits finis qu'on a saisis, prêts à la revente. Puis cette organisation-là effectuait aussi la distribution à Montréal et dans le Grand Montréal. Fait que ça se fait un peu partout, hein? Ça se fait comme toutes les autres drogues, ça se fait sous nos yeux bien souvent. Les gens, ils sont un petit peu trop à l'aise, puis ça nous permet de les arrêter. Là,
il faut que les gens réalisent une chose, parce que, on comprend, on a vu la série, là, des fois c'est un beau laboratoire, des fois c'est un peu moins beau. Il y a ce qu'on appelle des cooks qui préparent les comprimés, puis d'ailleurs, c'est assez facile d'acheter l'équipement, il n'y a personne qui pose trop de questions. Mais les matières premières utilisées pour faire les comprimés, là, c'est pas toujours de la grosse qualité. Là.
Non, effectivement... Ce que je dis souvent, c'est que ces gens-là, c'est des chimistes en herbe, puis ils font ça. Vous pouvez vous imaginer le sous-sol d'une maison délabrée, là, ça peut ressembler à ça. Quoique hier, on a aussi vu des locaux commerciaux dans des secteurs industrialisés, là. Mais c'est pas des gens qui ont des études là-dedans. Alors, on peut vraiment pas garantir la qualité de ce que les consommateurs consomment. Les précurseurs, il y a de la caféine là-dedans, mais on a souvent vu aussi des solvants de peinture, des solvants à plancher, etc., etc. Là. Alors,
j'ai vu de l'acide. Moi, j'ai vu toutes sortes de cochonneries qu'ils mettent là-dedans pour comme couper le produit puis faire les comprimés.
Ben, vous le dites, toutes sortes de cochonneries. Puis hier, toutes sortes de cochonneries, on en a saisi. Puis on en a saisi habillés comme justement les habits dans Breaking Bad. Fait que ça vous donne une idée un peu de la dangerosité que ça peut avoir de consommer ça. Puis quand je dis de dangerosité, ben ça, c'est juste pour les amphétamines. Hier, on a quand même saisi 21 armes à feu là, dans ce projet-là, dans cette enquête-là. Fait que c'est un mélange de toutes sortes d'éléments dangereux, effectivement, pour notre société. Là.
Donc, des pertes de revenus pour pas mal de monde, là.
Des grosses pertes de revenus. 6,5 millions d'amphétamines hier, c'est 32,5 millions dans la rue, puis je n'exagère pas, là. Le comprimé, il se vend 5 $ dans la rue, fait que simple multiplication là-dedans. Là. Oui, des pertes de revenus énormes, puis ça nous fait sourire un matin, nous.
Ça vous fait sourire?
Ben, c'est certain. Pour nous, c'est un zéro, là.
Parlez-moi un peu de façon plus large de ce qui se passe dans les rues de Montréal. Beaucoup d'incidents. On a vu, entre autres, garderies, des individus, trois en l'espace de quelques heures, qui se font poignarder, des coups de feu, des douilles. Là, vous êtes en charge du crime organisé, mais ça a l'air du crime désorganisé qu'on a devant nous.
Effectivement. On ne peut rien vous cacher. Malheureusement, c'est des cas isolés. C'est de plus en plus jeune. Vous le voyez comme moi, c'est de plus en plus jeune, les gens qui commettent ces crimes-là. Ces criminels-là, okay, on va nommer un chat, c'est un chat, là. Ces criminels-là qui tirent dans nos rues, il faut que ça cesse, on est les premiers à le dire. On est présents, OK? Puis quand on saisit 21 armes à feu, comme on l'a fait hier, bien, c'est 21 armes à feu qui sont sorties de nos rues, OK? Oui, c'est du crime organisé, mais ce crime organisé-là, quand on le coupe les vives avec 32,5 millions de valeurs de rue, bien, c'est 32,5 millions qu'ils n'ont pas pour acheter ces armes-là. Parce que quand les armes passent les lignes, parce qu'on va arrêter de dire que les armes y apparaissent par magie, là, mais quand les armes passent les lignes, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les achète. Bien souvent, c'est ces gens du crime organisé-là. Fait qu'il y a 21 armes à feu, puis des profits.
Si vous aviez à me faire le parcours d'une arme à feu là, qui arrive entre les mains d'un jeune de 14 ans dans n'importe quel arrondissement de Montréal, ce serait quoi?
Vous avez vu, il y a plein d'informations qui sortent des événements tragiques de nos voisins du Sud, là. Puis vous voyez quand la facilité d'obtenir une arme aux États-Unis, mais c'est exactement ça. Alors, il faut un permis de conduire aux États-Unis. On se rend chez notre Walmart du coin ou tout autre commerce, là. Puis on achète un arme à feu, puis les gens, ils rentrent ça ici de quelque manière que ce soit. Vous avez vu aussi les saisies par nos collègues de la SFC, là, l'an passé. Puis ça arrive fréquemment. Alors, c'est des gens qui achètent des armes à feu, puis qui rentrent ça ici tout simplement.
Puis qui revendent.
et qu'ils revendent, effectivement. Le markup est exceptionnel, on va se le dire. Là, on achète un arme à feu, un arme de poing à 700 $ aux États-Unis qu'on revend dans nos rues, c'est à 4 000.
Alors, il y a des gens qui ont 4 000 $ pour acheter ça, là.
Ben, ça aussi, c'est troublant. Alors, hier, quand je vous dis qu'on coupe 32,5 millions juste dans la matière qu'on a attrapée hier, c'est sans compter que l'organisation travaillait, écoulait 1 million d'amphétamines par semaine, c'est 5 millions de chiffres d'affaires par semaine. Alors, quand on vous dit qu'on a coupé l'herbe sur le pied ou qu'on vient de couper une source de revenus fort importante, ben, c'est entre autres pour faire l'achat des armes à feu, là.
Habituellement, on a vu des gangs de territoire, des gangs de rue, puis même d'autres filières du crime organisé. Là, on a l'impression qu'on se tire dessus ou qu'on tire en l'air pour absolument n'importe quel motif. Une chicane, un message sur Facebook qui dérange. Ou est-ce que ce sont des guerres de gangs ou des membres de gangs qui savent pas quoi faire, puis qui se pognent, puis qui tirent?
Vous avez malheureusement tout à fait raison. OK. Alors, avant, on voyait des guerres de territoire justement pour contrôler le trafic de stupéfiants. Maintenant, on le voit encore. C'est pas disparu, ça. Mais saupoudré à ça, on voit des jeunes qui s'invectivent sur les réseaux sociaux. Puis la manière de répondre à notre adversaire ou à la personne qui nous invective, c'est d'aller tirer dans son territoire. Et malheureusement, des fois, n'importe où. Alors, ces gens-là tirent en pensant fort bien tirer sur l'immeuble ou la personne ennemie, appelons-le comme ça. Puis, vous avez été témoin, vous êtes aux premières loges de voir qu'il y a souvent erreur sur la personne. Puis c'est ça qui est dérangeant, puis c'est les balles perdues, au nombre de balles qui se tirent, c'est des balles perdues.
On va se retrouver avec une victime innocente qui va mourir, là. C'est à peu près inévitable.
Je ne mettrai pas mes lunettes roses ici pour vous dire que non, ça n'arrivera pas, parce qu'effectivement, ça risque d'arriver.
Quels outils vous manquent-ils?
Quels outils qu'on manque, c'est sûr et certain qu'il n'y aura jamais assez de police. Okay? Il y a différents lobbies là-dedans, vous le savez très bien, là. Mais bien évidemment que moi, mes équipes, j'ai des excellentes équipes qui sont sur le territoire, très agiles, dans la rue, en jeans t-shirt, se font à la population, puis c'est ça qu'on veut. Alors oui, on monitorise par en dessous, puis c'est ça que je demande à mes gens. On a Eclipse, qui sont les ceintures noires de la patrouille, là, qui, d'après moi, c'est les meilleurs patrouilleurs de la province, là, qui sont sur le terrain jour après jour, c'est des mines d'informations. Bien évidemment, les policiers d'Eclipse, quand ils regardent quelqu'un croche, bien là, c'est d'autres lobbies qui vont venir dire que ces policiers-là, on va le traiter tout et non, mais moi, j'ai besoin de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils m'amènent une mine d'informations formidable qui me permet de faire mes enquêtes.
Parce que là, vous glissez toujours dans la... Comment je dirais ça? Dans l'espèce de... Vous avez une job terrain à faire. Puis là, on va dire, bien là, vous faites du profilage. Puis pourquoi vous avez ciblé un tel? Puis il se promène sur la rue. C'est pas parce que son frère est d'un gang de rue qu'il l'est nécessairement. Vous devriez le laisser tranquille. Vous êtes pogné avec ça, là.
On est pogné avec ça. On va se dire, on est pogné avec ça. C'est des paramètres qu'on contrôle pas. On est pogné avec ça. Autre chose, c'est que les armes de poing qu'on saisit, là, on va mettre quelque chose très au clair. Il y a 21 armes à feu. On a beaucoup d'armes de poing là-dedans. La quasi-totalité, c'est des armes qui sont illégales. Là. OK? Il n'y a pas personne. On avait une personne avec un permis d'arme à feu hier, puis ça donnait quand même à faire des activités criminelles. Donc, c'est quelqu'un à qui on a octroyé un permis d'arme à feu, mais qui, par en dessous, était dans le trafic de stupéfiants. Alors, les armes qu'on saisit, c'est souvent des armes qui sont illégales. OK? C'est pas monsieur qui va à la chasse une fois par année pour légiférer, là.
On m'a raconté une histoire, vous me direz si ça a du sens ou pas, que comme ça coûte quand même 4-5 000, après avoir tiré, un criminel voudrait se débarrasser de son arme, mais qu'eux gardent l'arme, puis vont s'en servir dans d'autres cas. C'est vrai, ça?
Ça peut arriver. Ça peut arriver. On voit des armes qui sont utilisées en faisant les expertises balistiques, puis on en rit, mais c'est pas quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Alors, effectivement, on voit des armes. C'est pas comme jadis dans la guerre des motards où ce qu'on laissait l'arme à feu sur les rues.
On brûlait l'arme, ouais.
Effectivement. Alors, au prix que ça coûte, les gens ben, là, sont prêts à le garder et même le revendre.
Est-ce que vous prévoyez un été chaud dans les rues?
On ne parle pas en termes de température ici.
Non.
Hein? Oui, effectivement. On prévoit un été chaud comme les deux dernières étés. Ça a été la même chose les deux dernières étés. On prévoit un été chaud, mais on va être présent, M. Arcand. Je vous le dis, on va être présent. Puis du côté des enquêtes, on ne surfe pas sur la vague. Je peux vous dire que mes gens sont rentrés aujourd'hui puis on passe à un autre appel, là. Il y a des dossiers déjà qu'on travaille, puis il y a différentes équipes. Hein. On parle des MAF, là, l'équipe multisectorielle qui a été mise en place pour travailler justement les armes à feu. J'en prendrais 8 équipes comme ça, M. Arcand, je vais être franc avec vous. Elles sont tellement bons, puis sont tellement agiles. Puis on règle des cas survenus il y a un an. C'est long, les enquêtes. Je vous mentirai pas, c'est long. On est dans un système de droit qui nécessite beaucoup d'arrangements. On travaille main dans la main avec le DPCP, mais un dossier comme hier, nous, notre job, c'est de les arrêter, puis c'est ça qu'on a fait.
Maintenant, une fois que vous avez arrêté, ça sera le fun que le système les garde en dedans le plus longtemps possible.
Ça serait totalement plaisant.
Pas pire. Monsieur Renault, merci d'être venu ce matin.
Merci
Francis
beaucoup.
Renault est le commandant de la division du crime organisé au SPVM.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Revenons ici et parlons du fantastique ministère des Transports, un rapport qui a été présenté hier, qui rentre dans ce qu'on appelle l'agence régionale, l'autorité régionale du transport métropolitain, dont le mandat est justement de planifier, coordonner le transport collectif dans le Grand Montréal. On nous parle d'un système lourd, opaque, bref, pas très fonctionnel. Le ministre des Transports est avec nous, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
C'est un rapport rentre-dedans, là. C'est pas un rapport très édifiant sur le fonctionnement de cette patente qui doit coordonner le transport à Montréal.
Oui, vous avez raison, tout à fait. Après 5 ans, c'est un constat qui est très dur, mais qui doit rester lucide face à, puis je vais dire, une feuille de route que les dirigeants devront appliquer dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que, comme ceux qui l'ont peut-être lu ce matin, un manque de transparence à l'égard des villes, un processus qui est trop lourd en termes de reddition de comptes, un gonflement de la taille des équipes, des effectifs. Puis ce que je disais, c'est que pour moi, l'organisation doit être plus légère, doit être voie la planification stratégique aux grands enjeux métropolitains. Puis on est un peu sorti de cet engagement initial que la RTM devait avoir. Donc, ce que je dis avec le nouveau président du conseil d'administration qui a été nommé Patrick Savard, qui vient de la ville de Longueuil, on se doit de prendre ce constat qui est extrêmement dur, comme je l'ai mentionné, et de partir avec ça dans les prochaines semaines pour s'assurer qu'on va bien répondre aux engagements et aux priorités des sociétés de transport et des villes.
C'est parce que moi, je regarde ça aller, puis il y a eu différentes structures, là, puis il y a comme une incapacité chronique qui se développe pour coordonner les affaires, pour que les gens se parlent. Par exemple, les différences de tarifs entre Montréal et Laval sur une même ligne, ça dépend d'où tu pars. Les chicanes de clocher, la caisse de dépôt qui arrive avec le REM. Autrement dit, là, ça a l'air d'un foutu bordel.
Monsieur Arcand, après 5 ans, je le répète, faut prendre ce constat puis se dire que ça ne fonctionne pas à 100%. Maintenant, il y a des employés qui sont motivés, qui sont compétents à la RTM. Mais au-delà de tout ça, je dis aux dirigeants ce matin, je dis à M. Gendron et à M. Savard, là, vous devez vous recentrer sur vos activités de planification stratégique, sur les enjeux métropolitains. Vous devez avoir une organisation qui est plus légère, qui va être capable de s'adapter aux besoins de tout le monde. Vous êtes le principal chapeau de la planification. Puis malheureusement, la RTM, dans les dernières années, est peut-être entrée trop précisément dans les opérations des sociétés de transport. Puis c'est ça qui a amené des éléments de frustration énormément de la part de certains. Puis c'est ce que confirment nos sondages et nos discussions qu'on a eues dans la dernière année.
Mais M. Bonnardel, je comprends, là, mais ce que j'essaie de voir, là, la RTM, ça fait quoi dans la vie? Concrètement, là, donnez-moi un exemple de ce qu'ils font pour aider l'amélioration de la qualité du service de transport en commun.
Ils sont supposés se recentrer sur les activités de planification stratégique. Exemple, le REM de l'Est, là, ben, ils vont travailler avec nous et la STM pour s'assurer d'avoir des options intéressantes pour la portion plus au nord vers l'Assomption, vers Mascouche, vers Laval. Donc, on a défini que le REM de l'Est pour la portion Marie-Victorin nord-sud, c'était OK. Pour la portion de l'Est, c'était OK. Donc, c'est un travail de planification, là. Ils ne sont pas dans les opérations, là. Puis si tu te mets le nez dans les opérations, mais tu frustres les sociétés de transport. C'est ça un petit peu qui a été la problématique des dernières années. Puis je leur dis aujourd'hui, le constat qu'on fait, que vous devez faire, c'est que ça ne fonctionne pas. Vous devez améliorer vos relations clients avec ces sociétés pour qu'on soit capable d'avoir plus de souplesse dans l'organisation.
Est-ce que cette autorité décide de quoi que ce soit?
Bien, elle doit décider. Elle a une planification. Elle se dit, voici le plan match des différentes sociétés, des villes pour les prochaines années. Donc, nous, comme gouvernement, on doit travailler avec eux pour se dire de quelle façon on priorise ces différents projets à gauche et à droite pour se dire, bon...
OK, mais ils planifient, mais ils décident de rien, là.
Bien, ils décident de rien. Ils ont une planification, puis c'est ça leur travail avec les sociétés. Puis nous, là, bien, c'est le gouvernement qui paye. Donc, il faut s'assurer avec eux que la planification est adéquate. puis qu'on n'est pas dans le vent, là, puis qu'on se dit, OK, on a des projets de 100 milliards de dollars pour les 10 prochaines années, il faut être réaliste, là. On a des sommes importantes de 45 milliards qu'on investit dans les prochaines années en transport collectif.
Ouais, mais monsieur,
donc, si tu m'amènes une feuille de route de 100 milliards, ça ne fonctionnera pas. Là.
Monsieur Bonnardel, là, je pense aux automobilistes qui nous écoutent, là, puis des gens qui sont là sur la route, puis d'autres qui vont être sur la route plus tard. Là. La semaine passée, la VG de la Ville de Montréal vient nous expliquer que l'arrondissement décide de barrer une rue, la Ville-Centre ne le sait pas, il y a des chantiers privés, ils mettent des comptes, ils ne se parlent pas, que c'est un système qui ne marche pas. Là, vous m'expliquez que ce rapport vous confirme que la patente créée pour orchestrer le transport en commun est inefficace depuis 5 ans. Vous leur bottez le cul pour que ça change rapidement. C'est-tu pour ça qu'on est tout mêlé quand on se déplace dans la grande région de Montréal puis qu'on frappe détour sur chantier, que le MTQ fait une affaire, que la Ville n'est pas au courant, que Mobilité Montréal est immobile? C'est un cauchemar, cette affaire-là.
Ben, M. Arcand, je sais que pour les différents grands projets, c'est compliqué pour les automobilistes. Puis je m'explique, là, on est sorti du pont Champlain. On a fait Turcot. Là, on est dans le tunnel Louis-Hippolyte. On finit le tunnel Louis-Hippolyte. On va s'en aller par après ça sur Métropolitain. On doit refaire la 30 au complet entre la 10 et l'autoroute 20. On fait une voie réservée sur l'autoroute 20. On va en faire sur la 15. On va en faire sur différentes routes. Mais au-delà de tout ça, on est en constante communication avec la Ville de Montréal. Maintenant, à l'intérieur de la Ville, la configuration des différents travaux, ça appartient à la Ville de Montréal. Moi, sur le réseau supérieur, vous pouvez être certain d'une chose, M. Arcand. On est toujours en communication avec la Ville pour s'assurer que les travaux se coordonnent et qu'on ne fasse pas la vie dure encore plus aux automobilistes, parce que c'est déjà assez compliqué de même.
Je veux bien vous croire, mais en même temps, j'ai un profond doute. Moi, je me dis, là, si on se parle franchement, on ne peut pas trouver une solution. C'est trop compliqué. Il y a trop d'acteurs. Il y a trop de joueurs.
Non.
Ah oui. C'est trop compliqué. Parce que la signalisation est nulle. Puis le problème, quand je parle à des gens dans votre ministère, eux autres, ils se trouvent bons. Fait que quand c'est nul puis que tu te trouves bon, c'est dur de t'améliorer quand même.
Mais Duncan, s'il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que la première chose quand je suis arrivé en poste, voilà 4 ans, c'était d'améliorer nos relations clients. Nos clients, c'est qui? C'est les villes. C'est les élus municipaux, c'est les élus de Québec, c'est les élus d'Ottawa. Puis dans les circonstances, on a un réseau supérieur qui est immensément important. On a beaucoup de travaux. Puis c'est pas vrai qu'on veut faire la vie dure aux automobilistes, mais la coordination doit bien se faire. Mettons, ce qui appartient à Montréal, ce qui appartient à Laval, à Longueuil, dans leur municipalité pour leurs travaux, c'est à eux. Mais nous, là, on est, je vous le dis, là, on communique. Est-ce qu'on doit toujours faire mieux? Oui, on est condamné à faire mieux au ministère des Transports. Dans les circonstances, on fait tout en notre possible pour bien coordonner ces travaux.
Deux, trois choses. Si je vous donne l'exemple du tunnel La Fontaine, qui, avouons-le, est un chantier majeur. Si je vous dis que ça fait 2 semaines qu'on essaie d'avoir une entrevue avec le responsable, juste pour savoir où on en est rendu, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que les automobilistes doivent savoir, je suis pas capable de parler à personne. Il y a comme un problème, là.
Bien, je vous le dis comme je le pense, c'est inacceptable. Si vous n'êtes pas capable de parler à un porte-parole du MTQ depuis 2 semaines...
Je ne veux pas un porte-parole. Je veux la personne qui est en charge du projet. Il y a tout bien quelqu'un qui est en charge du tunnel de La Fontaine?
Bien, c'est certain qu'il y a quelqu'un de responsable à la direction territoriale. Que vous ne soyez pas capable de parler, là, je m'en occupe en raccrochant tantôt.
OK. L'autre affaire. Ce matin, il y a une lettre ouverte dans la presse où deux maires, maire de Joliette, M. Belle-Rose, mairesse de Marieville, Mme Gagnon, qui dit, je cite... Apaiser la circulation sur une route paraît aussi difficile avec le MTQ que d'obtenir le laissez-passer A38 d'Astérix. Autrement dit que les relations avec le client qui est la municipalité parce qu'il y a une route est dangereuse, une intersection, c'est encore un foutu bordel.
Monsieur Arcand, je vous le répète, on a 31 000 km de route sur notre réseau supérieur, plus le réseau municipal qui appartient aux municipalités. Puis s'il y a des élus qui nous écoutent présentement, ils le savent. La première chose, quand j'ai rencontré tous les préfets au Québec, je leur ai dit, je vous promets qu'on va améliorer nos relations clients parce que c'était problématique avant ça. Et c'est pas parfait encore aujourd'hui. C'est pas normal de recevoir une demande de réduction de vitesse, une traverse de piéton, ajouter peut-être un stop ou un feu clignotant, puis que ça prenne 6 mois, 9 mois, 12 mois avant qu'un ingénieur me dise oui ou non, ça marche. J'en conviens. Maintenant, je vous le répète, on s'améliore. On sera toujours condamné à faire mieux au ministère. J'ai 125, 124 députés à rassurer jour après jour, des centaines d'élus qui m'écrivent semaine après semaine pour améliorer ceci, une vision zéro cela, le piéton ceci, les cyclistes ceci. On fait tout en notre pouvoir. Puis je vous le dis, là, il y a des directions territoriales qui vont beaucoup mieux. Il y a des personnes qui sont dédiées spécifiquement à ces relations clients avec les villes, mais on va toujours, toujours s'assurer s'améliorer dans les prochaines années. Puis ceux qui nous écoutent ce matin le savent, c'est la première chose que je leur ai demandé.
M. Bonnardel, avec tout le respect, êtes-vous en train de vous noyer au ministère des Transports? Il manque d'ingénieurs, on est pogné avec des firmes. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens de bonne foi, là, c'est pas ça mon point. Mon point, là, c'est que le mystère des Transports a l'air impénétrable.
Non, mais vous savez quoi, M. Arcand? Le ministère des Transports, là, on touche le quotidien des gens à tous les jours. Que ce soit des cyclistes, des piétons, un bateau, une moto, un avion, il y a toujours, toujours, toujours des situations qui nous amènent à réagir rapidement. Puis ça a été une des faiblesses au ministère dans les dernières années. Quand je suis arrivé, j'ai bien vu jusqu'à quel point c'était frustrant. Puis même moi, je le vivais dans l'opposition. Même moi. Puis je vous le répète, première chose que j'ai dit au préfet, aux élus, à la RQM, à l'UMQ, on va devoir s'améliorer, mais donnez-moi du temps pour que je puisse mettre des processus en place qui sont pas simples, qui sont pas simples dans différentes directions territoriales. Donc, oui, on a plus d'ingénieurs. Oui, on manque de techniciens en travaux publics. Oui, j'ai une grève sur le dos présentement qui m'amène à avoir des projets qui sont arrêtés dans une certaine mesure. Mais on fait tout en notre possible pour faciliter la tâche et améliorer le réseau.
OK. Merci, M. Bonnardel. Bonne journée.
Salut.
Au revoir. François Bonnardel est le ministre des Transports.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, la Cour suprême, dans quoi, 2 heures environ, va statuer combien de temps le tueur de la mosquée de Québec va passer en prison avant d'obtenir sa libération conditionnelle. On sait qu'on devait en principe additionner les 25 ans de prison. Le juge Huot, dans le dossier, a dit non, c'était un peu démesuré. Il a refait le calcul, puis il a dit il va passer 40 ans. Alors, on verra ce que dira la Cour suprême ce matin. J'en parle avec Fabrice de Pierrebourg, parce que quand tu regardes les faits, tu dis, mais c'est un acte de terreur qui a été posé, c'est un acte terroriste. Comment se fait-il que, dans ce dossier-là, on n'a pas, justement, mis l'étiquette de terrorisme? Fabrice, bonjour.
Bonjour, Paul.
Je pense qu'on n'a jamais utilisé le mot terroriste au Canada.
Ben, disons que c'est quelque chose, c'est ce que l'histoire va retenir, Paul, de cette attaque perpétrée par Alexandre Bissonnette. Ça avait causé beaucoup d'amertume, d'ailleurs, parmi les familles des victimes. C'est que cet acte avait vraiment la couleur, la saveur, l'odeur d'un acte terroriste, mais ça n'a jamais été traité ou même puni comme tel par la justice canadienne. Et ce qui est assez spécial, c'est que quand, par exemple, je regarde un rapport du Centre intégré d'évaluation du terrorisme, qui est un organisme fédéral du renseignement au Canada, un rapport de 2019 sur l'extrémisme de droite au Canada, on fait un tableau avec des exemples d'attentats récents, je les cite, ou d'attentats déjoués dont la responsabilité était attribuée à des extrémistes de droite. Donc on parle d'attentats et là-dedans, il y a l'attaque à la mosquée de Québec d'Alexandre Bissonnette qui a fait 6 morts et 19 blessés. Mais c'est pas le seul. Moi, j'ai refait le calcul. Depuis 2012, il y a eu 20 morts au Canada dans 4 attaques qui ont été motivées soit pour des raisons politiques, c'est le cas d'Alexandre Bain, au Metropolis, et où les autres étaient idéologiques reliés à l'extrême droite. On avait Justin Bourque à Moncton, lui, il avait tué 3 policiers de la GRC. Il faisait partie d'une mouvance anti-gouvernementale complotiste. À Toronto, il y a un incel, donc un célibataire involontaire, un misogyne. Lui, il a fauché 10 personnes avec sa voiture, donc une attaque à la voiture Bélier. Et donc, on ajoute les 6 morts à la mosquée de Québec. Donc, 20 morts. Il a fallu attendre 2021, Paul, lorsqu'un un Ontarien a fauché une famille musulmane avec sa voiture. Encore une fois, on a tué 4 à London en juin 2021 pour que la justice canadienne et la poursuite déposent enfin, en plus d'accusations de meurtre, tentative de meurtre, des accusations de terrorisme. Alors on voit qu'il y a comme un décalage entre ce que considère être un attentat le monde du renseignement, le monde de l'antiterrorisme et le monde judiciaire. Et longtemps, ce qu'on a expliqué, c'est que c'était difficile, Paul, de déposer des accusations de terrorisme quand c'est relié à l'extrême droite, parce que souvent, ce sont des individus, enfin la plupart du temps, même toujours, qui ne sont pas reliés à un groupe terroriste listé. Au contraire de, par exemple, des attaques de Saint-Jean-sur-Richelieu et Ottawa en 2014, où les deux individus s'étaient revendiqués du groupe armé État islamique. Bon, ben là, le groupe armé État islamique est un groupe terroriste connu, donc 1 plus 1 égale 2.
Mais dis-moi, Fabrice, dans le cas de Bissonnette, est-ce que c'est parce qu'on s'est dit, de toute façon, c'est pas une peine de prison additionnelle, il va avoir le maximum, donc d'aller faire la preuve que c'est un acte terroriste, c'est pas nécessaire?
Oui, mais il y a tout, probable, Paul, puis il y a tout le symbole pourtant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a créé un deux poids deux mesures qui était très dommageable. C'est-à-dire que le même individu d'une confession, genre par exemple musulmane, serait rentré dans une église de Québec et aurait fait six morts, on aurait immédiatement qualifié ça d'acte terroriste.
Oui.
Alors ce qui est spécial, c'est que dans la décision du juge Huot de la Cour supérieure, qui fait quand même 246 pages, je crois, il évacue la notion de terrorisme en une page, quelques paragraphes, mais il reconnaît en même temps qu'il avait une haine viscérale envers les musulmans et envers la religion musulmane. Et même, donc, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que dans l'analyse de son ordinateur par la GRC, il consultait à outrance des comptes reliés à l'extrême droite sur Twitter, néo-nazis, complotistes. Et à l'enquêteur, moi j'ai retrouvé les notes le lendemain de son arrestation, il a dit qu'il avait commencé à être hanté par les musulmans, l'immigration et tout, le lendemain de l'attaque à Ottawa en octobre 2014, puis que ça serait aggravé après l'attentat au camion Bélier à Nice en France le 14 juillet 2016, puis qu'il avait littéralement disjoncté lorsqu'il avait vu que le Canada allait ouvrir ses frontières aux réfugiés. Puis il a dit, je veux pas que ça devienne comme ça en Europe, ça va venir ici, ils vont tuer mes parents, il fallait que je fasse quelque chose. Donc clairement, il avait motivé son geste pour des raisons idéologiques, anti-musulmanes, mais on a considéré que c'était à la rigueur juste, entre guillemets, un crimineux, mais pas un acte terroriste.
Merci beaucoup, Fabrice.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.